Mesdames et Messieurs, Monsieur, encore une fois, bonjour et merci. Merci de suivre votre émission Objection. Objection a le plaisir de recevoir ce dimanche Mohamed Mboch. Il est le coordonnateur national du Forum civil. Monsieur Mboch, bonjour. Encore bonjour. Une fois, merci. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation.
Merci.
Alors, nous parlerons dans cette émission de lutte contre la corruption. Mm-hmm. Nous parlerons également de politique, mm-hmm. mais également l'actualité avec la défaite du professeur Abdoulaye Bathily à la commission de l'Union africaine. Mm-hmm. Mohamed Mboch, vous êtes un expert dans la lutte contre la corruption. Mm-hmm. Finalement, où en sommes-nous avec ce combat contre la corruption au Sénégal?
Peut-être merci encore une fois, Baye. C'est pour dire deux choses. On est en situation de progression. Pour tendre vers l'intégrité, on n'est pas encore à mi-chemin, c'est-à-dire la moyenne mondiale. On n'est pas dans ce niveau. Et nous avons trois outils qui travaillent sur la mesure de la corruption.
Lesquels?
Il y a l'indice de perception de la corruption, c'est les résultats de ce classement que nous avons rendu public il y a quelques semaines au niveau mondial. Il mesure la grande corruption dans l'administration publique, les agents publics, et dans la classe politique. La corruption passive, c'est ceux qui reçoivent des pots de vin. Mmh. On a un deuxième indice qui mesure la petite et moyenne corruption. Ces transactions corruptrices entre les usagers du service public et les fonctionnaires à un certain niveau de responsabilité. Les premiers agents publics sont dans la haute administration. On l'appelle le baromètre. Il le mesure dans des secteurs, il fait un classement sur des secteurs, les impôts, justice, état civil, la police, la douane,
la santé.
Voilà. Il y a un troisième outil qui est l'indice de perception de la corruption des pays exportateurs. C'est les pays développés et les pays intermédiaires. Ils mesurent les pays qui viennent ici, qui distribuent des pots de vin. Et dans ce classement, ce troisième classement, nous avons, dans le premier classement, l'indice de perception de la corruption, nous avons un classement favorable aux pays scandinaves en général. Qui ont une certaine conception de l'État, très éthique, le Canada. Ça renvoie aussi à la santé économique, au modèle d'État et de développement dans le pays. Vous verrez que la France est dans les 25 places, même les États-Unis, vous verrez qu'ils ne sont pas mieux placés que ça. Dans le deuxième instrument, baromètre, on sort le Sénégal. Cet indice ne prend pas tous les pays, parce que ça demande un travail de collecte d'informations assez difficile. Il y a des pays qui n'ont pas de données sur ces questions-là. Mais globalement, c'est de la petite corruption qu'on ne trouve pas dans les grands pays. Parce qu'il y a quand même une législation, il y a des structures qui luttent contre ça, et une justice plus ou moins qui fonctionne. La troisième catégorie, c'est la catégorie de mesure de la corruption active. C'est les pays développés et les pays émergents. Et dans ce troisième outil, c'est les pays émergents qui ferment le rang. Mmh. Comme la Malaisie. Mmh. La Malaisie, avec le problème de Iris d'ailleurs, avec les cartes d'électeurs, les cartes CDAO qui sont en train d'être faites, le contrat qui les lie avec l'État. Mmh. On a vu que le top management est impliqué dans un scandale de corruption en Guinée et dans d'autres pays en Afrique. Et le Sénégal a passé contrat avec ces gens-là. Okay. Le top management a été plus ou moins une partie mise au verrou, même en Malaisie aujourd'hui. On y reviendra dans le débat.
Mais alors, vous avez publié un rapport, le dernier rapport de Transparency International. Est-ce que vous pouvez nous dire réellement ce que cache véritablement ce dernier rapport, surtout concernant le Sénégal?
Bon, ça renseigne sur... je rappelle, c'est une mesure de la grande corruption. Notamment les hauts fonctionnaires et la classe politique qui reçoit des pots de vin. Parce qu'il n'y a pas de financement de partis politiques, malheureusement, au Sénégal.
Alors, il y en a au Mali. Dans les réformes.
Non, il y en a au Mali, il y en a dans tous les pays qui nous entourent. Cette grande démocratie qu'on chante tant, cette grande gouvernance qu'on chante tant. Et c'est une, comme vous dites, c'est une c'est une préconisation légale dans le code de transparence sur les finances publiques. L'État devrait prendre cette loi. Le Parlement même y a travaillé sur un modèle qui est sur le bureau du président, une sorte d'avant-proposition de loi. Donc ce n'est pas le cas. Donc si on regarde un peu l'État du Sénégal, avant la deuxième alternance, le classement était beaucoup plus défavorable au Sénégal. Nous étions entre 2,9 WAD et 3 et quelques quand il partit. C'est 34, 29. Aujourd'hui, on est à 45. Donc, de 2013 à aujourd'hui, 2013, le score du Sénégal, je peux vous le rappeler très rapidement, pour mieux mesurer l'évolution. En 2013, le Sénégal avait 43 sur 100. L'indice, je dois préciser que l'indice mesure la corruption sur un continuum de 0 à 100.
Okay.
0, c'est le point de corruption le plus grave, et 100, c'est le point d'intégrité le plus élevé. Par rapport à d'autres indices en Afrique, ils font la mesure que sur l'Afrique. Et c'est le classement pour eux qui est important, alors que pour notre indice, c'est le score qu'on engrange. Et ici, 43 sur 100, ça veut dire qu'il n'y a pas de moyenne. On n'est pas dans la moyenne mondiale. La moyenne mondiale, c'est 50. En 2013, le Sénégal avait, comme je vous l'ai dit, un score de 41 sur 100.
Mais on n'est pas encore arrivé à la barre des 50.
Non, et il y a pourtant 5 pays africains qui sont au-dessus de 50.
Mais là, on stagne apparemment.
Je vais vous
dire.
Qu'est-ce
qui justifie cette stagnation?
Juste à titre indicatif, c'est comme vous le dites, c'est une stagnation, une progression très lente. 2014, on progresse de 2 bons. 43 sur 100. Pourquoi 2014? Parce que la traque des biens mal acquis est lancée. Pour la première fois, l'État s'attaque à l'impunité sur les crimes financiers et prend un certain nombre de réformes et tente de mettre en place des lois favorables à la lutte contre la corruption. La création de l'OFNAC, la prise d'une loi sur la déclaration de patrimoine. C'est les deux grandes mesures, si je peux m'exprimer comme ça. La loi, le code de transparence sur les finances est voté en 2012 déjà. Watt l'avait déjà préparé, on l'avait trouvé en place. Et cette loi demandait qu'on prenne d'autres lois, comme le financement des partis politiques, une loi sur les conflits d'intérêts, une loi sur les lanceurs d'alerte. Ou les déclencheurs de... Tout cela n'est pas encore fait. Dans la sous-région, et le financement des partis. La Côte d'Ivoire l'a réglé, le Mali, on est en retard sur ces questions-là. Et malgré ça, la campagne sur la traque des biens mal acquis a produit un effet, parce que c'est une mesure de la perception de la lutte contre la corruption, c'est la situation de la corruption et les efforts pour inverser cette tendance et lutter contre le phénomène.
Mais ça a été bloqué finalement.
Parce que la traque est bloquée, il y a une liste de 25 qu'on n'a pas épuisée. Le premier, on a négocié sa libération dans des conditions que personne ne connaît aujourd'hui jusqu'à présent, il est au Qatar. Ils étaient 6, il y a une condamnation... les amendes cumulées pour ces personnes avoisinent 1000 milliards de francs CFA.
Finalement, l'espoir suscité par la traque, on a fini par récolter l'effet contraire.
Parce que la traque répondait à un besoin de mettre fin à l'impunité sur les crimes financiers. Donc si on l'arrête, ça veut dire, c'est compris comme une sorte d'encouragement. Maintenant, il y a quelques dossiers de fonctionnaires, un douanier, je crois. C'est
on
bien.
On la suite encore.
C'est bien de continuer comme ça. Mais il faut articuler cette relance du travail de la CNRI au premier dossier des 25. Une liste que le procureur à Lundao avait donnée. Cela pourrait booster. Comme je vous ai dit, en 2003, il y a un bond de 2 points. Mais depuis 2014, c'est 1 point par année. Donc, ce rythme de 2 points subites, si on avait continué sur 3-4 ans, on serait hors de la zone rouge, comprise entre 0 et 49%.
Oui, mais alors, finalement, au regard de la pratique dans le cadre de la gouvernance, quel regard vous jetez dans la gouvernance actuelle, au regard justement du fonctionnement de nos politiques publiques?
Bon, c'est un surenchérissement des coûts sur les réalisations du gouvernement ou sur les programmes. C'est-à-dire, pour multiplier l'impact d'un programme ou d'une réalisation, si on contrôle la corruption, on peut aller plus vite pour doter le pays.
Parce qu'on a vu beaucoup de marchés justement rejetés par l'ARMP aussi.
Bon,
qu'est-ce que ça traduit?
Ça, c'est un contrôle de conformité. Et l'ARMP ou DSMP, ils font plus ou moins ce boulot. On peut y revenir tout à l'heure.
Oui.
Ils ont même introduit des innovations dans les dernières manipulations du compte. Nous sommes pour une évaluation rigoureuse de l'impact de ce qu'ils ont appelé les innovations. Nous sommes pour cela. Pour voir si ça a servi quelque chose, si ça a aidé à aller plus vite dans ses réalisations, parce que ces réformes devaient répondre à un besoin d'efficacité. On a opposé le principe de transparence à celui d'efficacité. 4-5 ans après, nous demandons une évaluation pour voir si ce qui était promis, on l'a eu dans ces innovations. C'est important. Deux, le gré à gré, bon, puis est monté en flèche.
Oui, justement.
Bon, et c'est, le gré à gré, c'est vrai qu'en soi, il ne renseigne pas sur le niveau de corruption. Mais il porte des risques élevés de corruption. Parce que c'est une entente directe. Et s'il n'est pas encadré, bien contrôlé, ça emporte un niveau élevé de corruption.
En tout cas, c'est élevé.
Bon, et quand l'objectif qui lui était donné de faire vite, d'aller très vite dans les réalisations, il faut aujourd'hui évaluer pour voir si nous l'avons atteint. Parce que au-delà de, sur la question de l'efficacité et d'aller vite, la dernière sortie de la directrice des opérations de la Banque mondiale au Sénégal, du bureau de la Banque mondiale au Sénégal, renseignait qu'il y a des lenteurs sur les travaux, sur les grands projets de l'État, du fait de deux autres facteurs qui n'avaient rien à voir avec les procédures
de passation. Justement, l'explication pour justifier le gré à gré, est-ce que c'est une explication probante?
Sous Wade, c'était arrivé à un niveau de moins de 2 chiffres au Sénégal, la première évaluation. Maintenant, l'argument qui est donné par ceux qui dirigent le pays, c'est qu'on a besoin d'aller très vite. Le PSC demande qu'on aille vite. Il faut qu'on délivre ce qui est attendu du PSC au niveau des populations. Services de santé, routes, etc., etc. Mais quand on... Je voulais vous dire, si on veut aller très vite, on devrait le faire pour l'ensemble des enjeux et des leviers dans la conduite des affaires publiques. Je donne juste une information livrée par la direction des opérations de la Banque mondiale, le bureau de Dakar, il y a 2-3 mois, même pas 2 mois, où elle disait que dans les mêmes projets que l'État se propose de réaliser, ces grands projets, ils avaient constaté 2 éléments qui freinaient le fait de vouloir aller vite.
Lesquels ?
Ils disaient que l'État avait du mal sur son taux d'absorption des crédits, il y avait des efforts à faire. Bon, maintenant, ça, c'est complexe parce que l'État a un univers diversifié sur les procédures. Il travaille, quand un État va aller vite, il demande qu'on vienne dans la procédure nationale. Il faut que l'État réponde à cette interpellation de la directrice du bureau des opérations. Il y a le deuxième élément, il y a des contreparties souvent dans les financements que l'État doit mettre à disposition. Elle pointait du doigt la lenteur dans la mise à disposition de ces... Donc vous voyez que si on va aller vite, il n'y a pas que les procédures. Donc si pour être juste, on devrait prendre tous les spectres qui peuvent expliquer les lenteurs et les obstacles dans cette voie-là. Donc on se pose des questions sur les procédures. On a créé des innovations de contournement de ces procédures. Mais pourtant, on voit que sur des questions plus simples, taux d'absorption, un peu plus simple, je crois. Donc ces questions-là amènent à se poser des questions sur l'engagement, sur la question de la transparence, le principe de transparence. Qui pourrait avoir, si on ne contrôle pas les risques de corruption, des travers comme le surenchérissement des coûts, quelque chose qui pourrait être fait à moindre coût, coûterait beaucoup plus cher, quelque chose qui pourrait être fait 2 ou 3 fois par le surenchérissement, bon, pousserait l'État à atteindre difficilement ses objectifs de couvrir les attentes des populations.
Et finalement, c'est quoi? Une absence de volonté politique qui justifierait
cette stagnation? Il faut une évaluation.
Ou bien parce qu'il y a tellement de rapports ici, il y a l'IGE, la Cour des comptes, et tous ces rapports, finalement, il n'y a pas encore d'effet dans la lutte, dans le combat.
C'est clair. Et bon, moi je pense qu'il faut... Il y a eu une tentative quand le président Macky Sall s'est installé au début de son mandat, d'un dialogue entre les acteurs clés, notamment la société civile, le secteur privé et l'État. Je pense qu'il faut revenir à ce débat qui serait ouvert aux partenaires techniques et financiers. Comme ça, on arriverait à des conclusions sur des recommandations que personne ne pourrait éviter. C'est un premier niveau. En dehors de ça, on peut dénoncer. Mais bon, on vous écoutera 1 minute, 2 minutes, on passera là-dessus. Parce qu'il y a tellement de dysfonctionnements que même il est difficile d'avoir la mémoire au niveau de l'opinion sur ces questions-là.
Oui, mais justement, ces
discussions... Mais il faut des gens spécialistes qui s'assoient, ARMP, DSMP, qui sont à la primature, le ministère de l'économie, les secteurs privés qui sont là, et puis les partenaires techniques et financiers.
Mais il y a un élément apparemment qui manque dans le chaînon, c'est le citoyen dans le cadre de la redevabilité. Il se place où dans le schéma que vous avez décrit?
C'est dans le, l'exigence de rendre compte de l'ARMP, peut-être de la DCMP, dans les différents rapports. Mais il y a deux problèmes qui surgissent, c'est l'intelligibilité de ces rapports. Il faut peut-être une base minimale de familiarisation avec les concepts sur la commande publique pour pouvoir décrypter ce qui est servi dans ces rapports. Donc il y a un travail de démultiplication, de facilitation qui devrait être fait. Il y a des efforts qui sont consentis. Un rapport est donné, il y a un point de presse, la presse est utilisée comme relais. Il serait bon aussi que la presse soit mieux formée sur l'intelligibilité. Comment comprendre les rapports, comment, parce que si vous êtes en relais, vous devez prendre les messages convenablement dans le rapport et pouvoir les démultiplier au niveau des populations et dans les différentes langues. Il y a un effort à faire à ce niveau-là. Le juge, les gens qui reçoivent les rapports, le procureur, je me dis, tous les rapports qu'ils donnent, est-ce que le procureur, il a une équipe derrière lui de spécialistes sur la commande publique, si c'est des rapports financiers, de spécialistes sur les finances publiques, qui aident à décrypter, à décortiquer ces rapports pour lui permettre de voir comment les exploiter. Il y a d'autres rapports, on ne les transmet pas simplement. L'autorité, comme sur l'UGE, il y a des rapports qui n'arrivent pas.
Le problème est à ce niveau, principalement.
Ça, c'est un gros problème. Donc, si on veut améliorer, il y a l'OFNA qui a été créé à cet effet. Il y a la loi qui a créé l'OFNA, c'est une bonne mesure. Je crois que le bon de 2013, qui nous a donné deux points, c'était la logique dans ces lois et la traque. Il faut reprendre la traque des biens mal acquis. Il faut que l'OFNA soit réévalué. L'OFNAC a fait plus de 3 ans. Il est à mi-parcours pour son premier mandat de 6 ans. Les 50% d'acteurs qui étaient dans le conseil de l'OFNAC ont été remplacés. On ne peut pas faire cet exercice sans faire un bilan des 3 premières années de l'OFNAC. Je crois que c'est un premier élément. Sur la déclaration de patrimoine, dans le premier rapport de l'OFNAC, il y est dit que cette formalité substantielle pour contrôler les possibilités d'enrichissement au niveau des agents publics qui ont une charge dans une structure de l'État qui leur alloue ou affecte un budget de plus d'un milliard. Dans son bilan, l'ancienne présidente a mentionné que seulement 51% des assujettis par la loi sur cette formalité se sont soumis à cela.
Il y en a beaucoup, 49% qui restent.
Ce qui est, et des sanctions étaient prévues.
Le président avait demandé à ses ministres de véritablement répondre en fournissant les éléments qu'il faut.
Parfaitement. Quand on prend ces 49%, une partie c'est des fonctionnaires nommés les mercredis de conseil de ministres ou par d'autres voies, et une autre partie c'est des élus. La loi distingue ces deux statuts. Il dit que pour les élus, quand l'OFNA constate qu'ils refusent de se soumettre, l'OFNA a le pouvoir de prélever sur leurs émoluments, indemnités, qu'importe l'appellation, au moins 25% de leurs ressources. Pour ceux qui sont des fonctionnaires nommés par le président de la République, l'OFNA dit, la loi portant création de l'OFNA dit que le président, quand il constate le refus de ses fonctionnaires de se soumettre à la loi, il est demandé au président de les relever de leur fonction.
C'est pas encore le cas, en tout cas, par rapport aux 49% de ce qui reste.
C'est pourquoi je dis, c'est pourquoi nous disons qu'il faudrait évaluer le travail de l'OFNAC. Est-ce que on a tenu compte d'une sorte de listing de ces personnes saisies par requête, parce que s'il s'agit pour les élus de couper leur truc, il y a des procédures pour ça, de l'indemnité. Est-ce que ça s'est relevé de l'OFNAC? Qu'est-ce que l'OFNAC en a fait? Il faut être plus exhaustif dans le rendu du rapport. Les fonctionnaires qui refusent de le faire, qui ont été nommés président, est-ce qu'il y a une liste de ces fonctionnaires pour le soumettre à l'autorité pour qu'il les relève de leurs fonctions? Est-ce que cela a été fait? Si cela a été fait, les responsabilités peuvent être situées rapidement. Rapidement. Sur la volonté politique réelle. Et on ne peut pas progresser aujourd'hui pour sortir de la moyenne mondiale, aller au-delà de la moyenne mondiale, comme des pays comme le Rwanda. Botswana,
le Cap Vert,
la Namibie, Sao Tomé et Principe, et il y a un autre pays, parce que le Sénégal est septième. Ensuite, le Ghana vient après le Sénégal. Donc, le potentiel d'évolution du Sénégal permet de rêver qu'on peut aller au-delà des 50%. Mais il faut le moteur, c'est-à-dire la concrétisation d'une réelle volonté politique par des mesures idoines. Je donne juste la sanction pour ceux qui refusent. Oui. Comment quelqu'un qui agit au nom de l'État, a des responsabilités au niveau de l'OTAN, peut refuser d'appliquer la loi? Cela va au-dessus de au-delà
oui, parce que si les lois sont créées pour ne pas être appliquées, à quoi bon finalement?
Voilà la question de fond. C'est le début de l'effritement du principe même ou de l'idée même de république. Du vivre ensemble, parce qu'il est fondé sur des règles. Et ceux qui doivent l'observer les premiers, à titre d'exemple, sont ceux qui parlent et agissent au nom de la loi.
Oui, mais par exemple, sur la déclaration de patrimoine, des experts se sont levés pour contester justement la publication de cette déclaration de patrimoine. Quel est votre regard justement sur ce débat? Est-ce opportun de publier ou que faut-il faire?
Je pense que c'est un représentant d'un organisme des Nations Unies spécialisé sur cette question qui l'a dit le 9 décembre à l'occasion d'une conférence.
C'est un débat ouvert, hein?
Oui, mais bon, je reste pas convaincu que la publication apporte quelque chose dans la déclaration de patrimoine. Okay. Pour deux raisons. D'abord, la déclaration de patrimoine, c'est quoi sa fonction? C'est quand vous êtes nommé à un poste ou élu à un poste, vous êtes soumis à cette formalité. Dès le départ, vous faites une déclaration de patrimoine. Quand vous quittez le poste, vous faites une deuxième déclaration. On rapproche l'évolution du patrimoine
au départ,
dans ces deux bornes de cet intervalle. Et au regard de l'évolution de votre patrimoine et en tenant compte de ce que vous gagnez sur place, on peut y voir des indices d'enrichissement sans cause ou trouver que c'était normal. À partir du moment où on peut saisir la CRI qui peut mener des enquêtes plus poussées et vous mettre en demeure de répondre. L'OFNAC a la possibilité, l'OFNAC reçoit ces deux déclarations et peut comparer l'évolution du patrimoine dans cette. L'OFNAC est habilité par la loi qu'il a instituée de pouvoir lever le secret bancaire pour vérifier deux choses qui sont essentielles dans une déclaration de patrimoine. C'est l'exhaustivité des informations contenues dans la déclaration, vérifiez que vous n'avez rien omis, vous n'avez pas omis d'informations, vous allez dans une banque de comptes que vous avez caché, que vous n'avez pas mis dans votre déclaration. Deuxième élément, est que vous avez tout dit. Deuxième élément, c'est de voir la véracité. Vous avez un compte et on vérifie que c'est conforme, votre déclaration est conforme à la réalité, on a vérifié. Donc, si vous balancez ces informations d'une personne en charge d'un service sous sa responsabilité qui a un budget de plus d'un milliard, vous le mettez sur le net. Ceux qui vont aller sur le net, s'ils ont ces informations, ils ne peuvent pas procéder à ces vérifications. Donc ça n'a aucun sens de le mettre sur le net. Et ça viole, parce qu'avec la loi sur la protection des données personnelles, il faut savoir raison garder. Il faut travailler sur un équilibre, sur le principe de transparence et la défense des libertés individuelles. Et la protection des données personnelles relève de cette deuxième logique. Donc, ceux qui le font, il y a un pays dans la sous-région qui le fait.
Le Niger.
Le Sénégal est beaucoup mieux classé. Si ça avait un impact sur son classement, sur ses résultats...
Le problème, c'est au niveau du score. Hein?
C'est le score, le Sénégal devance sur le score comme sur le classement. Depuis plusieurs années, le Sénégal devance ce pays qui fait ça, qui pratique ça. Donc, ça veut dire que ça n'a pas vraiment d'effet contre la corruption. Si on balance les informations dans le net, supposons qu'un citoyen sénégalais, un compatriote, soit nommé dans le gouvernement, mais qui a fait tout son cursus professionnel dans le privé, et qu'on dise qu'il a 10 milliards, bon, un citoyen lambda peut ne pas comprendre. Parce qu'il y a des gens qui viennent de structures non étatiques, qui se retrouvent un jour avec des responsabilités au cœur de l'État. On balance des informations. C'est pas de donner les informations, c'est de les contrôler dans leur véracité et leur exhaustivité. C'est ça l'enjeu.
Mais dites-nous, Mohamed Mbouyd, coordonnateur du Forum civil, l'Assemblée nationale dans le cadre de la lutte, c'est aussi une institution dont une de ses vocations est de contrôler l'action de l'exécutif.
Il y a une difficulté objective pour régler une question essentielle, c'est l'adéquation profil-poste. La mission, si c'est de contrôle, on devrait mettre des gens capables de contrôler. Si on ne peut pas le faire, on peut demander un minimum de maîtrise technique et d'habileté technique, accompagné par des personnes ressources qui vont...
Les assistants parlementaires.
Assistants ou quelle que soit l'appellation. Mm-hmm. Quelque chose comme ça. Plus des séminaires de renforcement de capacité et des espaces de dialogue avec les citoyens. Tout ça participe à renforcer les compétences du parlementaire dans sa fonction de représentation politique. Donc on peut pallier à cela. Donc y a, ça ne pose aucun problème. Donc c'est aléatoire d'aller au suffrage universel dans ces conditions, alors qu'il n'y a pas d'exigence de niveau de compétence à l'entrée. Alors que la mission, elle est exigeante, c'est de contrôler l'exécutif. Le professeur Ismaël Amadior Fall, bon, dans la réforme, il a défendu la position du gouvernement. Je l'ai accompagné, j'ai été discutant dans une recherche de la société civile avec d'autres organes, où il faisait beaucoup de propositions intéressantes sur on parle même d'un niveau minimal pour être sur les listes aux législatives. On devrait reprendre, il y en a d'autres qui l'ont fait aussi, hein, dans la CNRI, rapporteur Abdoulaye Ké, professeur Abdoulaye, on devrait créer une discussion de techniciens d'abord pour proposer un corpus de propositions d'amélioration qui serait ensuite soumise aux politiques et aux citoyens. Je crois que ça devrait aller dans cette direction-là. Pour le moment, la législature actuelle, on fait des jugements qui ne s'appuie pas sur une approche méthodologique rigoureuse. Ça peut être un constat global. C'était nul, c'était par rapport comparé à quoi? Avant, maintenant, par rapport à des objectifs qui étaient fixés, avec les ruptures, on avait dit une assemblée de rupture.
Par rapport aux propositions de loi?
Non, de rupture. Est-ce qu'on a... je vous dis, on doit le faire de manière plus systémique. Avoir des outils de suivi et évaluation par rapport aux objectifs qui s'étaient donnés. Sinon, le débat reste fondé sur des impressions. Il n'est pas assez documenté. Mais a priori, on peut voir qu'il y a des choses qui ont manqué. Il y a eu de bonnes et grandes initiatives qui ont été prises par le Parlement, mais qui n'ont pas abouti. Les conditions pour faire aboutir une proposition de loi sont hors de portée des capacités des députés aujourd'hui. Aussi, il faut travailler sur cette norme pour la ramener à un niveau compatible avec les moyens de notre Parlement, les moyens intellectuels, physiques, personnels de nos parlementaires. Ça aussi, c'est une autre démarche qu'il faut faire dans ce début. Donc, il ne suffit pas d'asseoir une contestation. Enlever les normes, les obstacles artificiels pour éviter que l'opposition puisse le faire. Il faut ouvrir aussi cette possibilité de faire des propositions de loi au niveau de l'opposition. Ramener ça à des procédures simplifiées ou un groupe parlementaire, et baisser même le niveau de formation des groupes parlementaires. Il y a eu beaucoup, beaucoup de propositions faites par des spécialistes en gouvernance parlementaire qu'on devrait revisiter.
Oui, mais justement, ce débat reste d'actualité parce qu'on est en perspective des prochaines législatives. Mm-hmm. Le rapport de force entre coalitions, la coalition présidentielle d'une part, ou coalition Ouattou Sénégal de l'autre côté, mais aussi en face des deux, il y a les listes citoyennes qui se dessinent. Quelle appréciation?
Peut-être il y a un quatrième pôle.
Oui.
C'est les citoyens. Il y a un décrochage politique.
Les listes citoyennes.
Je dis les citoyens électeurs.
Oui, qui doivent trancher le débat.
Électeurs.
Oui.
Ils ne sont pas dans la participation politique électorale. Ils ne sont pas dans le jeu politique. Il y a un fort taux d'abstention depuis 2012. Même bien avant 2012. Pour les législatives, ça n'a jamais dépassé les 60 et quelques pourcents.
C'est clair, oui.
Donc, c'est structurel. Les gens se posent des questions sur l'utilité de l'institution. C'est pourquoi la nécessité d'aller dans de sérieuses réformes pour recrédibiliser l'institution. Donc, qu'est-ce que les gens vont faire? Vont-ils aller retirer leurs cartes? On parle d'un stock mort de 1,5 million. Aucune étude n'a pu asseoir cette information. Personne ne vous dit on est passé par là pour faire le... Personne ne peut le défendre. C'est une évaluation bâtie sur les impressions, sur la qualité de prestation du Parlement aussi. Il faut une démarche plus méthodique, plus structurée, pour nous dire est-ce qu'il y a un stock mort d'abord.
C'est l'objectif du processus actuel.
Mais ça peut être un stock mort, ça peut être un refus de participer, parce que le jeu politique n'est pas attractif. Le citoyen ne trouve pas qu'il y a un lien direct entre son vécu, ses difficultés et ce que fait le Parlement. Quand il voit des députés se battre dans le Parlement, pourquoi ne pas questionner les causes politiques de ce type de cette distanciation des citoyens vis-à-vis du Parlement? Mais on veut le voir comme une donnée technique de la gestion du fichier des listes électorales. Il faut s'interroger sur tout le spectre des possibles pour expliquer le comportement de distanciation des citoyens.
Mais ce rapport de force, comment l'expliquer aujourd'hui?
Trois choses. Oui. Je vais vous dire, il y a quatre ou cinq éléments qui structurent. D'abord, il y a une série d'élections. Les législatives, c'est le début de ce processus. De 2017 à 2019.
Bon. Dont deux principalement, législatives présidentielles.
Et les locales en
2019. Les locales, 19.
Vous voyez, donc on va arriver dans les deux ans à venir dans une série de consultations. Oui. C'est une période pour la classe politique. Ça veut dire quoi pour la classe politique? Qui cherche, l'élite politique qui cherche à se renouveler ou à consolider ses positions à la tête de l'appareil d'État.
Réponse?
C'est une perte, c'est une consolidation de ses positions pour plus de privilèges, pour beaucoup, plus d'avantages, peut-être même plus de possibilités d'enrichissement.
À tort ou à raison?
À tort, parce que c'est l'argent public. Pour d'autres, qui sont dans l'opposition, qui ne sont pas en position de décision, de pouvoir et de responsabilité, c'est une opportunité pour bousculer ces gens, mais pour arriver au pouvoir. Quand on regarde les profils des acteurs qui se disputent le pouvoir, les premiers sont aujourd'hui en position de pouvoir. La plupart de ceux qui veulent le pouvoir ont été au pouvoir.
Mais finalement, cette conclusion, elle est simplement dessinée.
Et la société...
On a les mêmes acteurs qui changent de position.
Et de plus en plus, la société a pris ses distances avec ce jeu.
Ah oui?
Donc, oui, vous vous rendez compte que le jeu politique n'est pas exprimé dans les institutions. C'est un danger pour la stabilité des institutions.
Qu'est-ce que vous faites de cela?
Si les citoyens, ce qu'ils pensent ou veulent dans le pays, ils pensent que ce n'est pas les institutions qui le redonnent, ils cherchent d'autres voies pour l'exprimer.
Lesquelles?
Mais dans les pays où ça existe, en Tunisie, c'est le printemps arabe. C'est une réponse des corps organisés. Je ne le souhaite pas pour le Sénégal. S'il y a une faillite de la classe politique dans ces différentes distributions,
oppositions
comme pouvoir.
Au regard du rapport entre l'élite, la classe politique et le citoyen, on en est arrivé là.
Mais vous savez, il y a eu 60% de taux d'abstention. On l'a expliqué par le fichier. Moi, je pense dans une démarche raisonnable, on aurait dû mettre en avant l'analyse politique et même sociologique. La sociologie du vote et des votes au Sénégal. A-t-on fait, comment dit-il, une telle étude? Le ministère de l'Intérieur était habilité à le faire. La Sénat était habilité à le faire. Donc, il y a un moment donné, d'habitude, on part d'idées générales non vérifiées. Le diagnostic est mal fait. Quand vous allez voir votre médecin, il vous consulte, vous n'êtes pas ausculté sérieusement. Il vous prescrit une ordonnance. Vous savez qu'il peut y avoir un décalage entre le diagnostic et la prescription. Donc, souvent, quand on fait les constats de désinvolture, juste en surface, on engage des solutions qui ne seront pas opérationnelles sur le marché.
Finalement, Mohamed Mboy, en est-on arrivé à la saturation de l'élite politique au Sénégal?
Il y a une crise structurelle du système de gouvernance. Les gouvernants continuent de nous gouverner comme Senghor nous gouvernait. C'est le même État central, c'est le même régime présidentialiste qui consacre trop de pouvoir. En face, il y a une classe politique en crise qui est en fin de cycle. Cette classe politique, comme les institutions. Ces institutions ont été mises en place à une époque historique pour répondre à des données différentes des données de nos sociétés contemporaines. C'était la pré-indépendance, le colon voulait se retirer, avoir une élite de substitution. Aujourd'hui, il y a une énorme citoyenneté qui s'exprime dans l'espace
de
public.
De plus en plus.
De qualité. Ça s'est joué sur plusieurs registres, le niveau d'éducation, une classe moyenne structurée et tout ça. Ça veut dire, et ces gens ne se retrouvent pas dans la manière de faire la politique. Les partis politiques traditionnels sont en crise, en scission, en lambeaux.
Oui.
Les partis émergents n'arrivent pas à ancrer leur jeu dans l'espace social. L'APR qui est né le dernier n'arrive pas à se structurer ni à trouver un ancrage dans les luttes sociales, ni dans les dynamiques sociales et citoyennes en cours. Donc c'est une période, c'est pourquoi il est difficile dans cette période de mobiliser les citoyens. Tout peut arriver, tous les possibles sont inscrits dans une, parce que c'est des incertitudes. Cette situation somme les partis de se réformer. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est des conflits, il n'y a pas de débat à l'interne, les conflits à l'interne se règlent devant le juge.
L'exemple du Parti Socialiste.
Mais pas seulement, oui, qui a préféré ça. Oui. Le président Agnès a préféré régler ça par les exclusions. Oui. Mais je vous dis, c'est des arguments d'autorité dans les deux cas. Ça veut dire qu'il montre qu'il n'y a pas de démocratie dans ces partis. Alors que les partis sont les lieux d'incubation des valeurs de notre République. Ils sont les lieux d'apprentissage des conduites nécessaires à une bonne gouvernance de nos institutions.
Oui, mais
si ces partis sont en cours de crise, génèrent des contre-valeurs, ils sortent des leaders qui sont porteurs de ces contre-valeurs, de corruption, d'absence de transparence, d'autoritarisme.
C'est donc le risque que court le Parti Socialiste.
Mais dans d'autres pays, on a fait des concertations dans le pays pour changer le régime des partis. Ces partis ne sont pas financés par le gouvernement. Aujourd'hui, où le pétrole pointe à l'horizon, il y a beaucoup d'acteurs qui regardent, ils ont le regard tourné vers le Sénégal. Dans des moments où c'est l'éclatement de l'élite et des partis. Mais s'il n'y a pas de financement officiel, il y a des risques de financement parallèle. Et ça, on a vu un pays où une compagnie minière a failli faire tomber le pays dans la violence. Un pays de la sous-région. Donc, si on n'est pas attentif aux risques qu'on fait courir le pays, on est par l'adversité politique, on ne veut pas lever la tête pour voir les vrais enjeux et voir un peu plus loin que nos intérêts crypto-personnels ou partisans, on met en danger son pays.
Deux camps se dessinent dans le Parti Socialiste. Par rapport à ce que vous venez de décliner comme lecture, quel impact pour le Parti Socialiste?
D'abord, vous avez parlé des listes indépendantes. Dans cette analyse, ces listes, on ne les voit pas encore. Il faut attendre de les voir pour porter une analyse.
Ça se dessine, hein?
On attend de les voir. Parce qu'ils ne sont pas formalisés ni visibles, on ne voit pas leur projet. Il faudra attendre objectivement pour se saisir des données qu'ils nous présentent et voir les personnes porteurs de ce projet. Il ne suffit pas d'avoir un projet, il faut avoir un bon portage de projet. Maintenant, le Parti Socialiste, comme l'AFP, comme l'accord de gouvernance du deuxième tour de 2012, a fait son temps avec le premier mandat. Moi, si je devais conseiller aux acteurs de Beno Bokoyakar, il fallait renouveler l'accord. Il faut renégocier.
Comme ça, c'est clair.
Je pense qu'on est en démocratie. Comme l'habitude, Jean-Paul Diaz a l'habitude de le dire, un parti, il faut qu'il se mesure. Participer à l'élection, ça permet de jauger son ancrage dans la société, sa représentativité. Pourquoi BBI n'a pas dit, allez, nous allons tous de notre côté, nous allons aller aux élections. Nous allons nous compter et négocier l'accord après. Sur la base du rapport de force que chacun détient, chacun pourra prétendre à ça ou ça. Mais en dehors de ça, on avait dit c'est les résultats du premier tour de 2012. Mais aux législatives, qu'est-ce qui va opérer? Les accords vont porter sur les résultats de quelle élection? Comment on va dire aux protagonistes aux partisans de BBI, vous aurez droit à ça? Donc vous voyez des voix s'élever dans l'espace de l'APR de Macky 2012 qui dit qu'il va apporter sa liste. Jean-Paul Diaz dit qu'il lui-même va apporter sa liste. Aujourd'hui, El Hadj Diouf dit qu'il va porter sa liste. C'est les prémices d'un éclatement de la paix. Donc le deuxième mandat, les enjeux sur le deuxième mandat et l'accompagnement de Macky Sall dans son deuxième portent les germes d'une implosion de la majorité politique. Ce qui affaiblirait lourdement la gouvernance du pays.
Et
cela existe pour l'opposition.
Les signaux donc sont lisibles de part et d'autre par rapport à cela.
C'est clair. Ça veut dire qu'on n'a pas les moyens de tirer à l'infini la dynamique de 2012, du report de vote au deuxième tour sur le candidat Macky Sall. Aujourd'hui, ils sont sommés par l'histoire de se recompter et peut-être de retisser le contrat de gouvernance ensemble. Maintenant, il y a Kojer Niass qui va diriger la liste de BBI. C'est la première fois pour Macky Sall une deuxième difficulté. C'est lui le facteur qui agissait comme effet d'entraînement sur la dynamique de BBI, parce qu'il allait en première ligne gagner l'élection et tirer les logiques de gouvernance aux autres échelles de gouvernance, parlement, local et autres. Mais là, aujourd'hui, c'est une inversion.
Oui, on démarre par les législatives.
C'est très sérieux.
Et lui, il
ne peut pas participer.
Voilà la difficulté.
Énorme difficulté.
Oui, pour lui.
Donc, c'est pourquoi, je pense, l'idée centrale, l'idée indispensable aurait été que qu'on garde l'accord de travailler ensemble, qu'on l'évalue, que chacun aille se poser. Et à la fin, selon ce qu'on a, on discute des modalités. Le principe est acquis avant,
oui.
Mais après les résultats, on discute des modalités de l'accord de gouvernance.
Sur la base du poids de chacun.
Bien sûr, et des réformes à initier, que ce soit négocié. C'est ça la démocratie, c'est ça la transparence dans la démocratie. L'opposition est dans la même situation. Ils sont là pour gérer les conditions de l'élection législative par manco. Il y a des pôles qui ont émergé ailleurs. Mais chacun dans Manco a ses stratégies de négociation ou ses postures de non-négociation ou de sélectivité dans les stratégies d'alliance. Donc dans les deux cas, il y a l'effritement de l'opposition comme celui du pouvoir. Et je vous ai dit, il y a les listes citoyennes qu'on n'a pas encore vues. Pour le moment, on attend de les voir. Je ne veux pas utiliser un autre mot. Et il y a la majorité des citoyens qui se posent des questions, qui ne semblent pas emballés par tout cela.
Mais
ce qui n'est pas clair pour eux, ils sont dans des difficultés sociales. Ils n'arrivent pas à articuler leurs angoisses, leurs inquiétudes par rapport aux stratégies qui sont en cours dans l'espace public. C'est une grande question.
Et l'alternative, c'est quoi?
Moi, j'ai dit d'abord, il faut que, autant dans l'opposition, il y a des discours de sélectivité des partenaires pour bâtir des stratégies d'alliance, autant dans la majorité, on devrait avoir la même logique. Ça aurait évité la crise du Parti Socialiste. Parce qu'on peut dire, pour le principe, nous sommes ensemble, mais nous allons chacun de son côté. Et après, on se compte, et on vient pour définir les modalités du partenariat. Mais ça aurait évité la crise de tous les acteurs. Parce que, vous avez vu dans l'APR, le discours, il y en a qui appellent à des primaires. Parce qu'il n'y a pas de structuration dans l'APR. Qui pèse quoi? Qui va être devant qui? Bon, qui va décider? Certains disent, il faut une approche consensuelle pour les investitures, sans dire les modalités. Ce discours existe dans la PR. Certains disent que nous devons garder la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, c'est une cacophonie extraordinaire. On est à moins de 6 mois des élections.
C'est le combat à mort qui se présente. Le mot est trop fort.
Si la majorité des citoyens pris individuellement étaient dans un camp, ils peuvent aider à trancher ça. Mais ce qui est plus grave, ils sont dans aucun camp. Il n'y a pas ce déclic qui réveille les citoyens. On risque d'avoir un taux d'abstention assez prononcé, comme d'habitude pour les élections législatives.
Ah oui?
60%.
Ah oui?
C'est la logique depuis longtemps.
Vous avez démontré justement une prise par le citoyen, un certain intérêt pour le citoyen. Justement, de ce point de vue, il y a encore à faire, ou est-ce que
le
déclic ne proviendrait pas de ce côté?
Le déclic viendra des engagements pris depuis les assises. La lutte contre la corruption, la poursuite de la traque, la transparence. Je ne sais pas si vous... Un système de gouvernance efficace pour la délivrance du service public et des ouvrages. C'est-à-dire, le citoyen, il prendra ce qu'il voit et ce qu'il peut toucher. Ce n'est pas des discours qui vont l'emballer.
Oui, mais on a connu les assises, M. Mohamed Mboy. Les assises ont produit des résultats. Mais qui pour les porter, finalement? Est-ce que ce n'est pas ça le grand enjeu de demain?
Parce qu'il y a une crise de confiance dans les actes. Parce qu'il n'y a pas d'acteur nouveau.
Mais qui pour porter?
Il n'y a pas d'acteur nouveau avec un discours qui lui donnerait peut-être une sorte de virginité qui fait que les gens, bon, on va essayer. Tous les acteurs qui sont aujourd'hui identifiés dans l'espace public, en attendant les listes citoyennes dont vous parlez, ils ont été aux affaires. On peut faire, dans les tranches de présence à la tête de l'État, le bilan de chaque acteur. Sa production, son niveau de productivité en termes de qualité de service, de quantité de service public, de respect des engagements, les citoyens peuvent les localiser, ils connaissent, ils savent. Donc pour que le déclic s'opère, ce ne sera pas le même type d'engagement que par le verbe. Pour moi, s'y ajoute un dernier élément qui commande plus de cohésion à l'interne. On sent de plus en plus une hostilité contre le Sénégal dans la sous-région. L'élection de Batili, comment s'est passée? L'intervention en Gambie, comment le fameux communiqué de la CEDEAO, comment un membre de la CEDEAO s'est désolidarisé, en disant, même si ce que la presse a dit et vérifié, que le premier jour où il devait faire son voyage en Gambie, il avait délégué le président mauritanien, qui n'est plus membre de la CEDEAO. Mmh. On a vu comment le président mauritanien l'a utilisé contre la CEDEAO, qui était un membre de la CEDEAO qui s'est retiré. La CEDEAO, c'est une expérience forte, bonne, en termes d'intégration économique et politique, mais qu'il faut consolider. Mais il faut être attentif à ces risques autour. Le Sénégal, il y a des raisons historiques de ces difficultés relationnelles dans l'espace africain avec ses voisins.
Est-ce que nous ne sommes pas assis aussi sur un héritage de
colonial qui nous a privilégiés, qui suscite des soupçons?
Un héritage à revoir.
Mais l'attitude du Sénégal sur la Gambie était bonne. Dans le Conseil de sécurité sur Israël, c'était très bien ça. Il faut le saluer. Mais j'ai dit, il faut être attentif dans notre discours. Pas seulement les autorités, y compris les populations. Moi, je donne l'exemple de la Gambie. Il y a une sorte d'arrogance du Sénégalais que je ne peux pas justifier. Mmh. Il y a un manque d'humilité, dans une posture permanente de donneuse de leçons. Sur la Gambie, on dit des bêtises de barreaux. Mais la Gambie est un pays souverain.
Oui.
C'est un pays indépendant avec un État souverain. On ne doit pas parler comme ça à un voisin.
Mais quel est ce problème?
C'est les Gambiens eux-mêmes qui ont réglé leurs problèmes. Ce qu'on leur a apporté, on a fait pression sur Diamé avec la CEDEAO pour qu'ils partent. Ils ne nous doivent rien d'autre.
C'est tout.
Et ceux qui sont à la tête de la Gambie, pour ceux qui les connaissent, au-delà de Adama Barrow, moi personnellement, j'en connais des gens avec qui on a cheminé dans notre jeunesse, qui sont passés par le Moja.
Très rusés en politique. Hein?
Mais que la gauche sénégalaise connaît très bien. Quand je vois des jeunes maîtrisards en sciences politiques leur donner des leçons dans les radios, je dis, ça ne va pas aider nos relations avec la Gambie. Laissons-nous régler le problème.
Dans ce dossier.
Mais bien sûr.
Alors, ce qu'on a récolté avec la défaite du professeur Abdoulaye Bakili, donc à la commission de l'UIA, quelle est l'explication? Le Sénégal, justement, perd du temps. Le Sénégal ne s'est pas départi encore de son héritage colonial.
De son complexe de supériorité.
Apparemment.
Je pense que, pas seulement le Sénégal, au départ, dans cette élection, Bakili n'y était pas. Mm. Dans la première séquence de l'élection,
Pourquoi avoir été surpris de ce résultat?
Moi, je ne l'étais pas, parce que je m'étais dit qu'on s'y est mal pris. Au départ, oui. Il y avait la procédure de choix du président de la commission était lancée. On a jaugé les candidats en place, on a sorti des choses qui pouvaient faire mal aux autres nations. On a dit que c'était des petites candidatures.
C'est quoi? On a voulu faire du forcing au départ.
Il y avait du mépris par rapport à la première liste de candidatures. Oui. On a repoussé la procédure pour permettre, soi-disant, d'introduire de gros cylindrés parmi les candidats. C'était très maladroit. Très maladroit. Sans compter d'autres raisons au niveau local, où les gens se tiennent par la barbichette parce que tel pays est intervenu militairement là, ça, on peut l'incorporer dans cette analyse et dans ce dispositif. Mais nous devons apprendre plus d'humilité. Évitons de donner des leçons à la Gambie. C'est des frères, il faut les aider. Si nous le demandent, le pont n'est pas une obligation, il n'y a pas de dette morale. Si demain ils y trouvent un intérêt, apprenons à co-construire avec la Gambie des projets mutuellement bénéfiques pour nos deux peuples. Et dans le respect de la souveraineté des États et de l'indépendance de ces pays. Sur la Mauritanie, c'est un peu différent. Sur la Mauritanie, je pense que nous faisons preuve depuis Bali, ou je ne sais pas, la première, d'un peu de laxisme et de... Il faut qu'on soit un peu plus ferme sur les principes. Je dis, le fait qu'on prenne les pêcheurs sénégalais comme des canards sauvages, c'est inacceptable. Même s'ils ont commis des fautes,
des erreurs, oui.
C'est une exécution sommaire. Il faut le poser comme cela. Deux, nos populations de Guernar, il faut que l'État sénégalais les contienne dans les limites de notre territoire. C'est la responsabilité de l'État. Pour pouvoir les protéger leurs biens, il faut qu'ils respectent les règles internationales, qu'ils structurent les liens entre des voisins, qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent aller où ils veulent, parce qu'il n'y a plus de poissons, on peut aller le chercher de toutes les manières. Surtout quand même que la Mauritanie donne des autorisations annuelles qui sont discutées pacifiquement. Autant le président Aziz n'a pas le droit de faire ça, autant il faut que le président Macky Sall contienne sa population dans les limites du territoire sénégalais et en conformité avec le droit international. C'est sa responsabilité.
Il y a un effort à faire de part et d'autre.
De part et d'autre, Mais c'était pas nécessaire qu'on fasse pression sur un groupe de presse. C'était pas nécessaire qu'on présente des lettres d'excuses à Aziz. Nous sommes un état de droit. S'il se sent lésé dans ses droits, la justice sénégalaise est là. Il est arrivé que des états étrangers portent plainte contre des journalistes ici au Sénégal. Il y a des procès réguliers. Nous n'avons pas à nous agenouiller devant Aziz. On doit le refuser. On doit le refuser. Parce qu'il canarde des gens. Qu'est-ce qu'on ne lui dit pas en face de ça? Même s'ils ont commis des fautes, ils doivent les juger. Ils ne doivent pas les éliminer physiquement. C'est des crimes contre les innocents. Moi, je dis, maintenant, Guendar, il faut un débat. Le ministre de la Pêche, il fait des tournées. Il faut un forum dans les zones. Le gouvernement a lancé Piment, un programme. Oui. Si vous allez dans le nord, l'essentiel des bourgades, des villes du nord, vont se ravitailler en Mauritanie.
On en saura un peu plus de toutes les façons du côté des autorités, parce que donc, c'est une grande problématique, justement, la gestion.
Nous sommes obligés d'être en convivialité et de développer des rapports de civilité avec ces États.
Avec nos voisins.
Mais dans le respect des règles de droit.
Oui, avec nos voisins, finalement, il y a quelque chose à faire.
Énorme. Mais ça ne veut pas dire que leur conseil est tout le temps, que quand ils ont une demande, il faut le satisfaire. Nous sommes un état de droit. On ne peut pas contraindre un groupe de presse qui a ses droits qui sont reconnus. S'il y a un conflit avec ici, au Sénégal, on le règle par la loi. Ce n'est pas une dictature. On ne peut pas venir tirer sur des gens, arrêter abusivement des gens. Un Sénégalais peut exprimer librement son opinion, telle que lui permet la Constitution.
Mohamed Mbouit, la dernière
question. Ça n'engage pas l'État.
La dernière question, justement, c'est les réformes en cours. Le régime présidentiel, que pensez-vous justement de ce régime présidentiel en termes de perspective par rapport à des réformes à envisager? Faudrait-il aller vers justement la cassure de ce régime présidentiel, à tort ou à raison, pour quelle perspective?
Les assises l'ont dit, nous étions au cœur des assises. Nous pensons que tout le mal, même la corruption, c'est lié à la patrimonialisation. La patrimonialisation, c'est une gestion personnelle, familiale. Les trois risques qui menacent la gouvernance, c'est la famille. Quand la famille est trop présente dans l'appareil, dans un régime présidentiel, il y a trois risques qui accroissent les travers de ce régime. C'est la famille, prééminence de la famille au cœur de l'État. C'est le parti, quand le parti est au cœur de l'État. C'est la religion, les religieux, quand ils sont au cœur de l'État. C'est les éléments qu'il faut surveiller avec beaucoup d'attention. Mais c'est facilité par le régime présidentiel. Il faut casser ce régime-là, ses pouvoirs. D'autres parlent d'encadrement, la CNR avait fait des propositions. Nous, on parlait même de parlements locaux et d'un exécutif. Dans les pôles économiques, les 7 pôles identifiés par le président Macky Sall. D'autres parlent de 6 pôles, les assises. D'autres, 8 pôles. Il faut un débat. Ça veut dire que s'il y a ce débat aujourd'hui, c'est qu'il y a un déficit de prise en charge des besoins de transformation institutionnelle et politique du pays.
Et justement, la redevabilité par le citoyen aujourd'hui. Le pouvoir central, le transfert du pouvoir en termes de redevabilité pour contrôler l'action de l'État, devrait-il se prolonger jusqu'au citoyen?
C'est l'enjeu. En définitive. C'est l'enjeu. S'il faut réveiller, notre gouvernance est trop institutionnelle. On met plus en avant. Il y a un problème, on crée une structure. Dans le débat sur les élections, on crée un comité de suivi. Il y a la Sénat, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le ministère de la Justice. Il y a une surabondance d'institutions. Dans la décentralisation, il y a la ACCT, il y a le comité de dialogue sur le territoire, il y a le ministère de la gouvernance locale, il y a les maires. Il y a une surabondance coûteuse des structures. Il faut, dans la gouvernance, ce qui marche le plus, c'est des espaces d'interaction. Que les acteurs existants déjà apprennent le dialogue, à se parler, à s'influencer mutuellement, à s'écouter, à s'entendre et à travailler ensemble.
Vous avez expérimenté l'outil?
On a la certification citoyenne au niveau gouvernant, on a d'autres outils qui sont en développement. Dans la deuxième phase de renforcement de notre politique nationale de gouvernance publique, il faut travailler sur les dynamiques d'interaction entre les acteurs.
Et la finalité, c'est quoi?
C'est replacer le citoyen au cœur de la gouvernance publique et affaiblir le pouvoir des politiciens. Je ne dis pas professionnel. Toute démocratie a besoin de politique et de partis politiques.
Et historiquement, je n'ai pas de préjugés contre les politiques. A déjà payé trop cher, justement.
Le retard pris sur ces réponses, aujourd'hui, s'exprime en termes de détournement, de scandale. Vous voyez ça tous les jours. Vous ouvrez la presse, des scandales. Sous Ouad, il y en avait. Aujourd'hui, il y en a. Dire qu'il n'y en a pas, c'est faux. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière notre nez. Nous devons regarder cette réalité. Si on veut aller vers l'émergence, c'est un défi, un des premiers défis qu'il faut prendre en charge. Parce que si on crée plus de richesses, et c'est le même système politique de redistribution de ces richesses qui est là, ça ne rêvera jamais aux citoyens. Il y aura toujours des pauvres ici.
Mohamed Boutsen Radio vous remercie.
Merci.
Ça a été un plaisir encore une fois de vous recevoir à l'émission Objection pour rappeler que vous êtes le coordonnateur national du Forum Civil. Mesdames, Messieurs Sanetou, excellente suite de programme sur la 98.5. Dimanche, un autre invité, une autre émission. Et justement, Mohamed Mout, la question justement de Guendar, la gestion justement dans cette partie du territoire sénégalais en relation avec nos voisins de la Mauritanie, ce sera l'objet de la prochaine émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain. Merci, au revoir et à très bientôt.
Yo ado adu jam so Casablanca, la ulbi jona.